Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette rubrique éphémérite de l'émission Un jour dans l'histoire. Le 20 mars 1921, en vertu de l'application du traité de Versailles, la Haute-Silésie, riche région minière sur laquelle lorgnent l'Allemagne et la Pologne, est appelée aux urnes pour décider de son appartenance à l'un ou l'autre de ces pays. Pour garantir la régularité de la consultation, une mission internationale avait été envoyée sur place dès février 1920. Composée de Français, d'Italiens et de Britanniques, cette commission interalliée de gouvernement et de plébiscite, dont le président est le général français Leron, s'avère incapable d'empêcher les troubles. Français, Britanniques et Italiens s'opposent sur la conduite à tenir. De cette mésentente naît une crise diplomatique majeure. Et donc, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur cet épisode oublié de l'histoire. Et pour nous parler de cette crise, qui fut sans conteste l'une des plus graves crises européennes des années 20, j'ai le plaisir de recevoir le lieutenant-colonel Rémy Porte qui vient de publier « Haute-Silésie 1920-1922 » aux éditions Rive-Neuve. Bonjour colonel.
Bonjour.
Je suis heureuse de vous retrouver dans le studio de Canal Académie. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes diplômé de sciences politiques et docteur habilité en histoire contemporaine. Vous êtes actuellement affecté à l'école supérieure des officiers de réserve spécialiste d'état-major. Et vous étiez venu déjà au micro de Canal Académie pour présenter le dictionnaire de la Grande Guerre 1914-18 que vous aviez co-dirigé avec François Cochet. Mais revenons à la Haute-Silésie. Et tout d'abord, pourriez-vous, colonel, pour que nos auditeurs comprennent mieux les enjeux de cette crise, rappeler ce qu'est la Haute-Silésie en 1920 et indiquer ce que prévoit le traité de Versailles donc pour la Haute-Silésie.
Dans l'immédiate après-Première Guerre mondiale, dans le cadre des conversations de Paris qui donneront le traité de Versailles, les Alliés réorganisent l'Europe, en particulier centrale et orientale, et en application des 14 points du président Wilson, favorisent la renaissance d'une nation polonaise. Curieusement, cette nation polonaise n'a pas de frontière extérieure définie, n'a pas de frontière internationale définie, et la Haute-Silésie fait partie de ces régions périphériques de la Pologne, qui vont être disputés, en l'occurrence, entre la Pologne et l'Allemagne, de la même façon que la Pologne sera en combat contre des troupes ukrainiennes, contre des troupes bolcheviques, contre des troupes baltes, pour essayer de faire établir ces nouvelles frontières internationales. La particularité de la Haute-Silésie est qu'il s'agit de l'un des trois bassins miniers les plus importants de l'ancienne Allemagne impériale. La Sarre est pour une quinzaine d'années sous administration française. La Ruhr et sous la menace permanente d'une intervention des Français et des Belges. Et il ne reste donc à la nouvelle République de Weimar, qui succède à l'Allemagne impériale, que ce bassin minier de Haute-Silésie pour assurer sa reconstruction, pour assurer son renouveau économique. Et le même bassin minier est revendiqué par la Pologne pour des raisons culturelles, historiques, mais également parce que cela donnerait à la nouvelle République polonaise un apport extrêmement significatif au point de vue industriel et technique et commercial.
Et donc, que va décider le traité de Versailles pour cette région ?
Alors, le traité de Versailles, dans une première ébauche, prévoit le rattachement direct de la Haute-Silésie à la Pologne. Les Allemands protestent au mois de mai 1919. Ce sera d'ailleurs la seule objection allemande retenue par les négociateurs occidentaux. Et sous la pression des Anglo-Saxons, Lloyd George, Wilson, auquel cède finalement Clemenceau, il doit être procédé à l'organisation d'une consultation électorale pour que la population de cette région, globalement, en ordre de grandeur, 2 millions d'habitants et peu ou prou, environ 1 million d'Allemands ou de langue allemande et environ 1 million d'habitants de langue polonaise, pour que cette population décide de son avenir et donc de l'appartenance soit à la Nouvelle-Pologne, soit à l'Allemagne.
Mais la Pologne ne revendique pas l'ensemble de la région.
Non. Les négociateurs du traité de Versailles ont bien spécifié, c'est l'article 88 du traité et son annexe, ont bien spécifié que les deux tiers sud-est seulement de l'ancienne Silésie prussienne étaient soumis à plébiscite, le nord-ouest de la province restant, parce qu'il est très majoritairement allemand, restant au sein de la République de Weimar.
Est-ce qu'une date est fixée immédiatement par le traité de Versailles ?
Non. Le traité de Versailles prévoit un délai entre 6 mois et 18 mois pour l'organisation de cette consultation électorale, le souci étant qu'il faut que l'ordre, le calme, la sécurité reviennent dans la province, d'une part, et d'autre part, qu'une administration internationale ait pu être mise en place pour ne pas prendre le risque que l'administration prussienne, l'ancienne administration prussienne, n'exerce des pressions sur les électeurs.
Donc en août 1919, il y a un premier soulèvement polonais de la région. Et donc c'est dans ce contexte un peu agité quand même que va arriver la mission internationale. Elle va arriver là-bas en février 1920.
Nous sommes à la date anniversaire, au 1er février.
Nous sommes à la date anniversaire. Et alors, comment se constitue cette mission ? J'y faisais allusion, elle prend le nom de commission interalliée de gouvernement et de plébiscite. Quelle va être sa mission et comment s'organise-t-elle ?
Alors, il s'agit d'une mission internationale qui, au terme du traité de Versailles, devait être composée de Français, de Britanniques, d'Italiens et d'Américains. Le refus du Sénat américain de ratifier le traité de Versailles fait que les Américains, de fait, se retirent. Il ne reste plus que des Français et des Italiens. Les Britanniques, désignant le personnel d'encadrement de la commission internationale, mais décidant dans un premier temps de ne pas envoyer de troupes sur place. Il y a plusieurs départements, on pourrait dire des ministères, un ministère ou département de l'intérieur, un de la justice, un du ravitaillement et une composante militaire. C'est en ce sens que cette opération multinationale en 1920 se rapproche déjà de ce qu'on a pu vivre à la fin du XXe siècle avec les opérations multinationales qui étaient à la fois à composition civile et militaire.
Ce qui va compliquer la mission d'ailleurs en elle-même.
Totalement, puisque le général Leron, étant le plus ancien dans le grade le plus élevé, se retrouve de fait président de cette commission internationale, mais sans en avoir explicitement le titre et les responsabilités. Et ses deux adjoints, ses deux homologues, le britannique et l'italien, chaque fois que les gouvernements de Paris, de Londres et de Rome seront en opposition, ces deux adjoints n'hésiteront jamais à rappeler qu'ils ne sont pas subordonnés, mais bien les égaux du général Leron.
Très tôt, des dissensions apparaissent en effet, en particulier entre la France et la Grande-Bretagne, puisque leurs intérêts divergent pour l'avenir de cette région. Quelle position est prête à soutenir la France et pourquoi l'Angleterre s'y oppose ?
Globalement, la France a accepté, je disais tout à l'heure, que la Silésie, la Haute-Silésie, devait être remise initialement en totalité à la Pologne. Clémenceau a accepté que la région soit soumise à plébiscite, mais en ayant la conviction que le résultat du vote confirmerait ce rattachement de la province à la Pologne. Les Français sont donc surpris par l'évolution progressive des événements et en particulier l'attitude du gouvernement britannique qui, dans le souci d'aider l'Allemagne à reconstruire la nouvelle République de Weimar, à reconstruire son économie, est plutôt favorable très tôt à ce que la région reste allemande. Et plus les mois vont s'écouler, plus un lobby, selon l'expression aujourd'hui en vigueur, anglo-germanique, va œuvrer pour que la région reste à l'Allemagne. Parallèlement, la France s'arc-boute sur son alliance avec la Pologne. Il faut se souvenir qu'à l'été 1920, il y a une très très importante mission militaire à Varsovie, mission militaire française, à des postes divers, mais des personnalités aussi célèbres que Weygand, que De Gaulle, etc. Et donc, cette alliance dite de revers par rapport à l'Allemagne entre la France et la Pologne conduit Paris à vouloir à tout prix le rattachement de la province à Varsovie. Londres et Paris divergent jusqu'à une séparation avec fracas à l'été 1921 où les deux alliés plus ou moins soutenus, Londres étant plutôt soutenu par Rome d'ailleurs, les deux alliés ne parviennent plus du tout à s'entendre, sont au bout des concessions qu'ils estiment pouvoir faire et transféreront finalement le dossier de la conférence interalliée à la Société des Nations.
Voilà, on va y revenir un peu plus loin et revenons peut-être pour l'instant au rôle de cette commission interalliée, aux forces dont dispose le général Leron et à ce qu'ils vont essayer d'établir dans la province à leur arrivée.
Sur le plan juridique, pour user d'une image que chacun peut comprendre, la province reste allemande, au sens de la propriété, la province reste allemande, mais l'usufruit de la province est confié à la Commission internationale. C'est-à-dire que la CIGP dispose de tous les organes d'administration de la province, que les fonctionnaires locaux et régionaux lui sont désormais subordonnés, de façon à ce qu'elle puisse remplir sa mission de préparation des opérations électorales. Étant donné que la province est profondément divisée de part et d'autre, Polonais et Allemands s'arment, c'est une succession de coups de main, de guet-apens, d'attentats, de provocations diverses, la composante militaire de la Commission internationale prend une importance essentielle par rapport aux composantes civiles. Entre février 1920 et mars 1921, date de l'élection, période de l'élection. Les autorités militaires s'impliquent de plus en plus dans un certain nombre de secteurs de cette province, de régions de cette province, à la suite de la proclamation de l'état de siège, par exemple, qui donne à l'autorité militaire la totalité des pouvoirs réglementaires, administratifs, etc. Les principaux axes d'action, les axes d'effort de cette mission, bien sûr, la préparation administrative des opérations électorales, ne serait-ce que la constitution des listes électorales, qui peut voter, etc., l'organisation en propre de l'élection, et puis toute une série d'opérations que l'on retrouve aujourd'hui encore sur d'autres théâtres, de recherche de caches d'armes, de désarmement de milices, d'interposition entre des factions en lutte. Et comme cette province est soumise à de très graves désordres de l'ordre public, aide aux populations, alimentation des populations, ressources en chauffage pour les populations, alimentation en eau potable, etc., etc., etc. Et donc une très large palette d'activités qui vont de l'action militaire la plus simple, si j'ose dire, jusqu'à l'action au bénéfice des populations civiles, les plus simples également, dans toute la palette, dans tous les degrés.
La commission s'avère-t-elle efficace dans sa mission ?
Alors globalement, oui. On peut tout simplement se reporter à la décision qui sera finalement retenue au terme de 2 ans et demi d'exercice de l'autorité. Après d'innombrables difficultés, la province est effectivement partagée. Un jugement qu'on pourrait...
On va y revenir, ouais. Au partage.
Mais la province est effectivement partagée sans que le conflit entre les deux communautés n'ait dégénéré au-delà des frontières.
Donc en août 1920, il y a un second soulèvement polonais. On a l'impression pourtant que la commission interalliée est complètement impuissante face à ce soulèvement.
Toute la difficulté réside en la matière dans le volume des troupes dont dispose la commission internationale pour occuper et maintenir l'ordre sur le territoire. Les effectifs effectivement disponibles ne dépasseront jamais 12 000 hommes et dans les pics les plus aigus 15 000 hommes. Étant donné la densité de population, une région extrêmement industrialisée, extrêmement peuplée, il est en pratique impossible de tenir tous les sites dans la province. Et le commandement de l'opération internationale fait le choix, lorsque survient la deuxième révolte polonaise, la deuxième insurrection polonaise, fait le choix de se replier sur les villes les plus importantes, et puis ensuite, en multipliant les patrouilles, de revenir dans les villages pour désarmer progressivement. C'est un mouvement de flux et de reflux, de va-et-vient, où le nombre de garnisons évolue en fonction de la dangerosité de la situation, du risque de la situation.
Alors ce second soulèvement polonais a pour effet aussi de fixer une date pour ce fameux plébiscite, puisqu'il faut presser la situation pour en sortir. Donc la date du 20 mars 1921 est arrêtée. Nous verrons après une courte pause dans quelles conditions se déroule ce plébiscite et les résultats.
Canal Académie vous propose une série de 3 émissions consacrées au pardon. Monseigneur d'Agens, de l'Académie française, évoque la place du pardon dans les évangiles et dans la religion catholique aujourd'hui. Le grand rabbin Haïm Korsia nous donne le sens de la fête du grand pardon, le Yom Kippour, ainsi que certains rites au moment de la mort. Enfin, Daniel Vermeulen, anthropologue, se penche sur l'importance de pardonner et d'être pardonné au moment de mourir. 3 émissions Regards croisés à télécharger librement sur le site de Canal Académie.
Nous sommes toujours en compagnie du lieutenant-colonel Rémy Porte pour évoquer le plébiscite de Haute-Silésie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Haute-Silésie 1920-1922, aux éditions Rive-Neuve. Alors, colonel, passons maintenant au plébiscite à proprement parler, et tout d'abord au vote. Et qui vote ?
La Commission internationale met en œuvre les décisions des gouvernements alliés en la matière. Et Paris et Londres ne s'entendent sur les caractéristiques, je dirais, administratives de la procédure et du déroulement des élections que très tardivement. Les populations admises à voter sont définies entre janvier et février, alors que l'élection doit avoir lieu en mars, fin mars. Sont admis à voter 4 catégories de population, ceux qui sont nés et qui habitent en Haute-Silésie, ce qui est effectivement évident, les électeurs potentiels, donc 18 ans et plus, nés en Haute-Silésie et ayant quitté la province au plus tard en 1904, ceux qui sont nés hors de la province et qui sont venus s'installer en Haute-Silésie, avec la même limite de 1904, et puis les prisonniers politiques ou les exilés politiques, ce qui concerne une minorité de Polonais chassés du territoire par l'administration allemande. Donc 4 catégories de population, l'Allemagne saura extrêmement bien organiser la recherche, le regroupement et le transport en Haute-Silésie de ses ressortissants qui, nés sur le territoire, l'ont quitté depuis un certain nombre d'années, et des trains spéciaux par dizaines vont amener de l'ordre de 180 000 électeurs de l'ensemble de la République de Weimar en direction de la province.
Alors, les résultats sont favorables aux Allemands ?
Alors, les résultats sont indiscutablement favorables aux Allemands, dans un ordre de grandeur de 60-40, hein, 60% en faveur du maintien dans l'Allemagne et 40% en faveur du rattachement à la Pologne. Même si ces électeurs extérieurs à la province n'avaient pas été massivement amenés dans la région par trains spéciaux par les Allemands, la majorité serait restée allemande. Toute la difficulté du tracé de la future frontière internationale ensuite vient du fait que les Allemands sont indiscutablement majoritaires dans un certain nombre de kreis, d'arrondissements, de cercles, sur le nord-ouest de la province plébiscitaire, les Polonais d'eux-mêmes au sud-est de la province plébiscitaire. Par contre, l'essentiel du centre de cette province, où se situe en particulier le bassin houillé, qui est l'enjeu stratégique, est partagé entre des grandes communes qui sont à majorité allemande et un très très grand nombre, une infinité de petites localités, de hameaux, parfois, qui sont à majorité polonaise. Et il est quasiment impossible, même au scalpel, d'arriver à découper une frontière internationale qui divise, sans créer de rancœur de part et d'autre, qui partage entre les deux communautés.
Mais en plus, il se trouve qu'au vu de ces résultats, les Allemands vont revendiquer l'ensemble...
Alors, immédiatement, ayant obtenu la majorité des suffrages, Berlin affirme que l'ensemble de la province doit lui revenir, tandis que les Polonais, alors menés localement par Korfanty, qui est une personnalité tout à fait charismatique, qui est véritablement le chef indiscuté des mineurs polonais en particulier, hein, pour prévenir un éventuel rattachement de la province à l'Allemagne, vont lancer au mois de mai, un mois et demi après les opérations de vote, une troisième insurrection polonaise qui sera de loin la plus sévère, la plus violente, qui verra l'affrontement de deux armées de 50 000 hommes.
Oui, puisque là, c'est un vrai conflit, si j'ose dire, qui dure longtemps, qui s'accompagne de grèves, donc qui appauvrit terriblement la région. Quelles sont les caractéristiques de ce conflit ?
C'est très particulier. Je le disais, de chaque côté, de part et d'autre, deux armées de l'ordre de 40 à 50 000 hommes, avec des matériels lourds, avec de l'artillerie lourde, avec des trains blindés, etc. Mais paradoxalement, deux armées irrégulières. On a d'un côté ce qu'on appelle les volontaires polonais de Korfanty, que l'on dit majoritairement ou presque exclusivement issus des populations locales, alors qu'en réalité la frontière entre la Haute-Silésie et la Pologne est très perméable et que de nombreux Polonais viennent renforcer les rangs de ces volontaires. Ils progressent très rapidement pendant les premiers jours du mois de mai 1921, au début de la troisième insurrection, et s'organisent en phase 2, sur la base de milices également locales, de la police locale allemande, renforcée par des groupes divers, et en particulier les fameux corps francs allemands, une résistance dans un premier temps des populations allemandes, qui ensuite, à partir du 15 mai, lance des contre-attaques. Et on a dans la période du 15 au 30 mai, trois, en particulier deux, très grosses batailles qui rappelle directement les combats de la Première Guerre mondiale.
Quelle est la position de la CIGP dans ces combats ?
Extrêmement délicate, puisque, je le disais tout à l'heure, ils disposent de 12 à 15 000 hommes au maximum, et ils se trouvent pris en tenaille entre 40 à 50 000 Polonais d'un côté et 40 à 50 000 Allemands de l'autre. Donc le commandement de la Commission internationale fait le choix de replier ces différentes garnisons sur un certain nombre de points sensibles ou de sites particulièrement importants, de façon à en assurer la protection. Et le général Leron va utiliser habilement les contingents dont il dispose, les Britanniques étant, dans l'esprit de Berlin, plutôt favorables à la thèse allemande. Les Allemands ne prendront jamais le risque d'attaquer des troupes anglaises. Donc, face aux volontaires ou aux irréguliers allemands, le général Leron place des bataillons britanniques. Les Polonais étant les alliés de la France et des irréguliers polonais ne voulant pas prendre le risque politique d'attaquer des soldats français, ils placent face à eux des bataillons français. Et en jouant ainsi sur la composition des unités qu'ils placent face à tel ou tel belligérant, et en associant très étroitement, ou aussi étroitement que possible, les trois nations alliées, ils contraignent petit à petit les différents belligérants à s'arrêter sur leur position, puis au terme de négociations qui durent plusieurs semaines, à se replier alternativement les Polonais se replient de 3 km. Le lendemain, les Allemands parallèlement de 3 km. Le surlendemain, les Polonais à nouveau de 5 km, etc., etc., etc. De façon à créer entre Polonais et Allemands une zone démilitarisée, une zone neutre, qui va être en 15 jours étendue à l'ensemble de la province.
Alors pourtant, à vous écouter, on a l'impression que l'action du général Leron est claire, enfin, et surtout pas fait l'objet d'aucune critique. Alors qu'on est loin de la réalité, son attitude va être fortement critiquée par les Britanniques.
Tout à fait. Il faut se remettre également dans le contexte de l'époque. Nous sortons de la Première Guerre mondiale. Les Français se sont battus très durement pendant 4 ans contre les Allemands. Et en 1920, on demande aux poilus, hein, qui viennent de terminer la Première Guerre mondiale, de s'interposer entre des Allemands qui sont les ennemis d'hier et des Polonais qui sont les alliés d'aujourd'hui. Psychologiquement, la situation est difficile. Par ailleurs, le gouvernement à Paris s'affiche ostensiblement en faveur des thèses de Varsovie. Et sur le terrain, les Allemands recherchent, sinon l'alliance, du moins la neutralité des Britanniques. Ce qui conduit le général Leron à être toujours sur la corde raide, toujours en situation de déséquilibre, entre d'une part le respect des directives gouvernementales et des choix de Briand, à Paris, qui est le président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, la prise en compte des opinions de ses homologues ou subordonnés britanniques et italiens, et essentiellement par la négociation, essentiellement par la force de conviction, arriver à convaincre les dirigeants locaux polonais et allemands qu'il est inutile de recourir aux armes et qu'il vaut mieux négocier et discuter. C'est une position qui est tous les jours extrêmement instable.
Et pourtant, il arrive donc, comme vous l'avez dit, à s'en sortir. Mais alors, la crispation des rapports entre l'Angleterre et la France va faire que personne n'arrive à s'entendre sur la définition d'une frontière. Et donc là, il y a un recours à la Société des Nations. Comment la Société des Nations va s'en sortir ?
Dans un premier temps, donc au mois d'août 1921, lorsque les présidents du Conseil français et premiers ministres britanniques constatent leur incapacité à s'entendre, la proposition est faite. Les Italiens jouent un rôle diplomatique très actif d'ailleurs durant cette période, souvent plutôt favorable à la thèse britannique, mais en tout état de cause très actif, le comte Sforza agit énormément. La proposition est faite de transférer le dossier à la Société des Nations naissante, qui est en train de se structurer à Genève, pour lui demander un conseil, officiellement, dans un premier temps. Mais lorsque ce conseil est rendu, les alliés ne parvenant pas à s'entendre, le conseil se transforme quasiment en décision qui sera reprise en tant que telle par Paris, Londres et Rome. Ce qui est intéressant dans cette phase, c'est que la Société des Nations va choisir 4 diplomates parmi ses membres, un Chinois, un Espagnol, un Brésilien, ce qui fait de la décision de tracer la nouvelle frontière de Haute-Silésie la première décision prise par ce qu'on pourrait appeler la communauté internationale, mais surtout par des pays extérieurs à la crise, le Brésil, la Chine, l'Espagne, en dehors de la volonté des grandes puissances de l'époque, que sont encore, bien sûr, Londres et Paris. C'est une vraie rupture dans les relations internationales.
Le temps passe vite, nous sommes un peu obligés de conclure. Vous semblez regretter beaucoup dans votre ouvrage que cet épisode de Haute-Silésie soit si oublié. Vous consacrez aussi de nombreuses pages à la perception de cette affaire au moment même où elle se déroule dans les journaux. Et vous semblez dire qu'elle apporterait de nombreuses leçons sur des épisodes plus modernes.
Nous sommes en face d'une opération qui est décidée par la communauté internationale, qui voit l'administration d'une province par la communauté internationale, avec la participation de personnels civils et militaires de différents pays, et des missions qui ne sont plus spécifiquement militaires, ce n'est plus l'occupation militaire d'un territoire, mais l'administration d'un territoire en vue d'organiser des élections. Sans vouloir faire un calque, transposer automatiquement les événements de 1920 avec ceux de 1990 ou 2000, on voit bien la ressemblance avec des situations en particulier balkaniques. Ce qui est intéressant dans cette opération de Haute-Silésie, c'est qu'aucune des armées de l'époque n'était préparée à la conduire. Et que le général Leron, comme son homologue britannique, comme son homologue italien, comme leurs subordonnés, ont dû inventer au jour le jour des réponses et des solutions à des problèmes auxquels ils n'étaient pas préparés. Je termine par un dernier exemple. Si nous mettons côte à côte une décision de la Commission internationale prise à Oppeln au printemps 1921 et une décision du haut représentant des Nations Unies prise en Bosnie-Herzégovine en 1993, presque mot pour mot, le texte serait identique. Il y a donc beaucoup de ressemblances.
Merci beaucoup, colonel. Donc, je renvoie nos auditeurs pour en savoir plus sur cette opération de Haute-Silésie à votre ouvrage, donc paru aux éditions Rive-Neuve, Haute-Silésie 1920-1922, avec pour sous-titre « Laboratoire des leçons oubliées de l'armée française et perception nationale ». Merci, colonel.
Merci.
Au revoir à tous et à toutes.